Bonjour et bienvenue chez Rita. Rita, c'est le lieu de rencontre de tous les parents. Si vous êtes ici, c'est que vous-même allez devenir parent ou peut-être l'aviez déjà. Ici, on vous parle de maternité et de parentalité sans filtre. Et si vous êtes tombé chez nous par hasard, on espère que vous resterez quelques minutes de plus avec nous, le temps pour vous d'écouter notre épisode. Élodie a toujours rêvé de devenir maman, mais après deux fausses couches, son chemin vers la maternité n'a pas été si simple. Une fois enceinte de sa petite Lily Joy, elle savoure alors chaque instant, projetant déjà sa propre mère dans le rôle de grand-mère. Mais la vie est parfois cruelle. Alors qu'Élodie porte son bébé en elle, elle perd sa maman à 4 mois de grossesse. Une perte soudaine qui laissera un vide immense. Dans cet épisode poignant, Élodie nous raconte l'ambivalence permanente dans laquelle elle a navigué durant ses 9 mois de grossesse et même après. Vous le verrez, Élodie a su puiser des forces inestimées dans son être le plus profond, porté par l'amour inconditionnel de la maternité et en faisant preuve d'une résilience extrême. Bonjour Élodie et merci d'avoir trouvé un peu de temps.
Mais bonjour Anissa, avec grand grand plaisir. Je sens que ça va être très chouette de partager tout ça avec toi.
Donc déjà, est-ce que tu peux commencer par te présenter, puisque les gens te connaissent plus souvent sous le nom de Élodie Loftralala, mais en fait, qui est Élodie Loftralala?
Alors, je m'appelle Élodie, j'ai 37 ans, je travaille dans le milieu du mariage, à la fois l'organisation, mais je suis plus connue pour la partie cérémonie d'amour. Je crée des cérémonies sur mesure pour raconter l'histoire d'amour des couples, et je fais aussi beaucoup de décorations florales. Je suis amoureuse de Fred, et je suis la maman de Lily Joy, qui va bientôt avoir 2 ans.
Depuis combien de temps es-tu avec ton chéri?
Alors, on est ensemble depuis un peu plus de 4 ans. On se connaît depuis 2013. On s'est rencontrés dans le cadre du boulot, puisque lui est photographe professionnel. Et moi, je venais de me lancer à l'époque dans le milieu du mariage. Et donc, il m'avait contacté pour décorer un workshop photo qu'il organisait pour d'autres photographes. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus. Après, on est restés en contact pas mal de temps. On avait un peu chacun nos vies. Oui, en fait, moi, j'étais fiancée, hein. Quand je suis tombée amoureuse de Fred, donc j'étais vraiment effectivement très engagée. Et puis le 29 juin 2019, on est tombés fous amoureux l'un de l'autre lors d'un mariage à Bali, pour lequel lui était photographe et moi j'étais officiante et coordinatrice.
Et donc vous aviez bossé pas mal de temps ensemble?
Alors on n'avait pas tellement bossé ensemble parce qu'on n'a pas vraiment la même clientèle, mais on faisait partie un peu du même milieu, donc on... Je dirais pas qu'on se voyait régulièrement, mais quand même genre 3-4 fois par an, quoi. On restait en contact parce qu'on avait des amis en commun, ou on se donnait un peu des nouvelles, mais toujours de façon très amicale. Jusqu'à 2-3 ans avant notre première... avant notre coup de foudre, où moi, en fait, je savais déjà un peu que je craquais sur lui, mais... En gros, lui n'était pas prêt, donc voilà, on a eu un petit ajustement, et puis je lui ai dit « Ok, si t'es pas prêt, restons bons amis ». Et donc, quelques années plus tard, on s'est retrouvés dans un contexte qui a fait que ça a vraiment fait tilt et qu'on s'est dit « c'est maintenant ou jamais ».
Et du coup, comment se sont passés vos débuts ensemble?
Ça a été un peu chaotique parce qu'en fait, on a dû faire un gros chamboulement de vie. On était chacun en couple à l'époque, donc on est tombés amoureux à Bali. Dès qu'on est rentrés, on a chacun directement expliqué à nos partenaires respectifs qu'on était tombés amoureux de quelqu'un d'autre et que du coup, on allait se séparer. Donc, ça a été quand même un peu un contexte un peu chaotique. En plus, c'était très vite, le Covid est arrivé. Donc, on a très vite vécu ensemble, mais un peu, du coup, vraiment enfermés l'un avec l'autre. Ça aurait pu être un peu dangereux et au final, ça s'est juste méga bien passé. Et très vite, on s'est dit... toi et moi, c'est all-in ou rien. Vu qu'on se connaissait depuis longtemps, on savait déjà qu'on s'appréciait, qu'on se respectait, qu'on s'entendait bien. Et puis, on s'est rendu compte qu'on était vraiment amoureux. Mais ce qu'on savait quand on est tombé amoureux là-bas, étant donné qu'on était engagés chacun, c'est qu'on s'est dit « Ok, on ne fait pas tout sauter en l'air pour une amourette, quoi. On a l'âge qu'on a, on va blesser des gens, donc il faut qu'on soit certain que c'est pour la vie, quoi. » Et donc, on a vraiment, pendant 3 jours, discuté de toutes nos envies. D'ailleurs, dans l'avion du retour, je lui ai envoyé un questionnaire, je pense, de 50 questions, avec toutes les grandes questions, genre, est-ce que tu veux des enfants? Est-ce que tu n'en veux pas? C'est quoi le type d'éducation idéale? C'est quoi ton rapport à l'argent? Où est-ce que tu te vois dans 30 ans? Voilà, vraiment, toutes les questions qui me passaient par la tête, et j'y répondais. Donc je les lui posais, mais je lui donnais aussi, ok, moi je me mets à nu, là je mets toutes les cartes sur la table, voilà qui je suis, voilà ce que je ressens, voilà ce que je veux, c'est all-in ou c'est rien. Et lui a pris, il m'a dit une demi-journée pour répondre aussi à toutes ces questions, vraiment...
L'entretien,
Je l'avais envoyé ça par WhatsApp, et donc tu sais, c'était vraiment ce genre de message, genre « read more, read more, read more », vraiment sans cesse. Et au début, il était un peu en mode « wow, ok », et au final, il s'est pris au jeu, il a trouvé ça génial qu'on partage tout ça, parce que c'était des bases, du coup, méga solides, des sujets que parfois t'abordes pas en couple avant 3-4 ans de relation. Nous, boum, direct, on a tout abordé. On a fait des tests de compatibilité astrologique, MBTI, enfin voilà, vraiment, genre, pour être sûr. Bon, t'es jamais sûr, hein, mais voilà, on avait vraiment envie, en tout cas, de mettre toutes les chances de notre côté et de se dire, ok, on a la même vision de la vie, on veut aller au même endroit, on s'aime, on y croit et on est go, quoi.
T'avais 33 ans et donc toi, t'avais envie aussi d'avancer et de te poser dans la vie.
Effectivement, j'étais à un tournant de ma vie où je savais que, bah voilà, là, je voulais vraiment me stabiliser. Je voulais des enfants depuis des années. Je voulais pas commencer à perdre mon temps pendant 3-4 ans. Ah oui, non, on se découvre, on voit. Et puis, non, je voulais être sûre d'être avec quelqu'un qui voulait aller au même endroit que moi, dans les mêmes délais.
Donc, très vite, les bases sont posées. Donc, la question bébé, vous saviez que ce serait assez imminent, ou comment vous envisagez la suite, en fait? Puisque toi, quand même, on va rappeler que tu l'as dit, mais tu officies des cérémonies. Est-ce que, du coup, toi qui étais fiancée, c'était important le mariage avant d'avoir un enfant avec Fred ou pas?
Pas forcément. Pour moi, c'était une certitude que je voulais me marier, mais le mariage avant ou après les enfants, pour moi, ça n'était pas... Il n'y avait pas d'ordre nécessaire, logique ou quoi que ce soit. C'était juste... voilà, je savais que je voulais des enfants, je savais que je voulais me marier, donc très vite on en a discuté, et en fait, vu l'âge qu'on avait, assez vite on s'est dit, ben en fait, priorité d'abord au bébé, donc on a d'abord lancé le projet bébé, et donc finalement, ça s'est mis en route assez vite, puisque je suis tombée enceinte une première fois en décembre, donc quelques mois seulement après le début de notre histoire. Ça, c'était un peu trop rapide, honnêtement, c'était pas... Tout à fait prévu. J'étais pas sous contraception, mais parce qu'en fait, j'étais convaincue que j'étais stérile. J'avais déjà été en essai bébé avant et je n'étais jamais tombée enceinte, même sous PMA. Donc moi, j'avais dit à Fred, c'est sûr que je veux un enfant, mais il y a beaucoup de chances qu'on galère pour en avoir un.
Et toi, de ton côté, t'avais déjà fait des tests que tu pensais que t'étais stérile?
J'avais fait des tests, mon ex avait fait des tests aussi. En soi, tout était censé aller bien, mais toujours est-il que ça ne fonctionnait pas. Après coup, en discutant avec ma gynéco, avec aussi ma kinésio, etc., on m'a dit qu'il y avait probablement finalement un blocage psychologique qui était sûrement là. Mais bon, ça, tu ne le sais pas sur le moment. Mais voilà, moi, j'étais convaincue qu'on aurait des difficultés. Et finalement, boum, quand je suis tombée enceinte en décembre, c'était en toute franchise assez dur parce que... En fait, même si j'étais convaincue que Fred était la bonne personne pour moi, j'étais quand même encore en deuil de ma précédente relation, tu vois. La personne que j'ai quittée, c'était un gars super bien, pour lequel j'avais eu beaucoup de sentiments, que je respectais énormément et que j'étais vraiment triste d'avoir blessé. Et donc, t'oublies pas quelqu'un que t'as aimé et avec qui tu t'es engagée en quelques mois à peine. Donc, j'étais encore dans une période très ambivalente où j'étais sûre de mon choix, mais quand même encore en processus de deuil et encore triste et encore chamboulé. Donc, quand cette première grossesse est arrivée, c'était un peu wow, ok, génial, et en même temps wow, c'est tôt, je ne m'y attendais pas, donc mais ok, on l'accueille. Et finalement, ben, gros ascenseur émotionnel, puisque au bout de 6-7 semaines, j'ai fait 6 semaines et demie, j'ai fait une fausse couche. Ça a été super dur, physiquement, mais surtout moralement. Mais d'un autre côté, je pense que ça nous a encore plus soudés avec mon amoureux, parce qu'on a vraiment traversé ça ensemble, très soudés. Il a été très touché aussi par la perte de notre premier petit bébé, et il a été très très présent, très très compréhensif. Voilà, après, ben, il a fallu digérer un petit peu ça.
Et du coup, est-ce que ça vous a convaincu d'autant plus de repartir en essai bébé directement, ou vous avez préféré attendre à ce moment-là?
On ne s'est pas posé la question. En tout cas, je ne prenais de toute façon pas de contraceptif. On n'était pas en mode « ok, on réessaye direct », mais on était plus en mode « on laisse faire les choses et on verra bien ». Et donc, je suis retombée une deuxième fois enceinte quelques mois à peine plus tard, genre 4-5 mois après. Et là, j'étais très, très stressée. stressée, j'avais très peur de faire à nouveau une fausse couche, j'étais un peu sur le qui-vive, j'étais contente mais j'osais pas y croire, et j'ai de nouveau fait une fausse couche à 7 semaines, et là j'étais très démoralisée.
Ah oui, ça devait être dur à vivre à ce moment-là.
Ouais, c'était vraiment très dur, parce que là j'étais en mode, ok génial, en fait j'arrive à tomber enceinte, mais j'arrive juste pas à garder mon bébé. Et en fait dans la foulée, du coup, j'ai fait tout un test au niveau, un suivi nutritionnel, pour vérifier que j'avais pas de carence, parce que j'étais en bonne santé, mais je me disais, ok, peut-être qu'il y a quelque chose à puiser là-bas. Et donc j'ai été voir mon amie Audrey de Cuisine Vivante, qui fait un peu du profilage alimentaire, et qui m'a permis à ce moment-là de vraiment bien rééquilibrer mon alimentation. Et bon, ben, je sais pas si ça a aidé, mais en tout cas, ça m'a vachement donné confiance en moi et en mon corps pour la suite. Et donc je suis retombée enceinte ensuite, en fin mars, début avril, au moment de mon anniversaire, 2021.
Donc
et
le week-end de ton anniversaire.
Le week-end de mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 3 avril. Bon, ben voilà, on s'était réservé un petit endroit. Enfin, mon amoureux m'avait réservé en surprise un endroit super canon. On a fait plein de câlins, c'était très chouette. Et en fait, je sais pas, quelques jours après, j'ai eu un espèce de mini feeling, mais je l'ai laissé de côté, je m'y suis, enfin voilà. Et un mois plus tard, moi j'avais préparé une surprise pour mon homme. Je l'emmenais dans une super belle cabane, parce que je suis amoureuse des logements insolites et des belles cabanes. Et juste, je sentais vraiment que j'étais enceinte, mais j'ai attendu vraiment le dernier moment pour faire mon test. Et donc juste avant de l'emmener dans cette cabane, on est passé à la pharmacie, j'ai été acheter mon test. Et j'ai pas encore fait mon test tout de suite, on a passé la première nuit là-bas, dans cette cabane, hyper chouette, on était très amoureux, c'était très très gay. Et le lendemain matin, pendant que lui préparait le petit déjeuner, j'ai été faire mon test dans cette petite cabane.
Était au courant que t'avais acheté
non,
un test?
Non, il ne savait pas. Okay. Et je lui avais pas dit. Les fois précédentes, à chaque fois, je lui avais dit, ah, je crois que je suis enceinte et tout, là, j'avais rien dit du tout. Même si en vrai, j'ai des symptômes qui ne trompent pas trop. En fait, moi, bizarrement, les premiers jours, les premières semaines, et ça a été le cas les 3 fois, je me transforme en dragon. J'ai vraiment une... Alors que je suis plutôt très douce, très sympa et tout, là, je suis hyper à fleur de peau, j'ai des opinions hyper tranchées, je me mets hyper vite en colère, c'était trop bizarre, mais les 3 fois, il y a eu ça. Et j'avais eu un truc comme ça, donc lui non plus n'avait rien dit. Mais en fait, lui se posait un peu des questions aussi, mais on n'en parlait pas.
Ok,
tu vois,
ouais.
Et là, quand j'ai été faire ce test, en fait, en le faisant, j'étais hyper confiante. Je sentais vraiment qu'il allait être positif et j'y croyais, quoi. Et donc après, je suis arrivée dans le petit chalet, dans le petit salon, et j'ai mis notre chanson. On a une chanson depuis qu'on est ensemble, depuis le tout début, c'est Remember Us This Way de Lady Gaga. Et en fait, souvent, on la met quand on fait des petites escapades en amoureux, on la met et on danse n'importe où, dans un champ, quand on était parti en van, on l'avait mise, on avait dansé à la belle étoile, quand on part comme ça, voilà, c'est un petit slow, c'est un petit moment d'amoureux qu'on aime bien faire. Donc moi j'ai mis ça et je lui ai juste dit danse avec moi, et en fait je nous ai filmé, tu vois, mais ça jusque là c'est normal parce que je nous filme toujours. C'est en fait, je m'étais dit que chaque fois qu'on allait danser là-dessus, je nous filmerais, parce que je suis quasi sûre que ce sera probablement à un moment ou un autre une chanson que je voudrais à notre mariage, et je m'étais dit qu'un jour je ferais peut-être un montage, tu
vois.
Et donc voilà, donc je nous ai toujours filmé chaque fois qu'on dansait, donc jusque là rien d'anormal,
ouais.
Et on danse et on danse et on danse, et je tiens le coup au moins une minute, et au bout d'un moment, voilà, là je lui murmure à l'oreille, je suis enceinte. Et là il me sort hyper fort dans ses bras et il me regarde et il me dit c'est pas vrai et tout, et puis il me dit en fait je le savais,
mais
et j'en étais sûre. Et en fait voilà, on s'est mis à pleurer tous les deux, à rire en même temps, à serrer dans les bras, avec toujours notre chanson en fond sonore, en train de continuer à danser. Oui. Et c'était génial, c'était un moment vraiment magique, quoi, vraiment.
Ah,
et
ouais.
Je suis trop contente de l'avoir enregistré, et parfois je me le refais avant de dormir en mode oh c'était trop mignon.
Mais oui, t'as trop eu raison d'avoir filmé, quoi.
Et je suis tellement contente de me dire je vais pouvoir montrer ça à Lily Joy un jour.
Oui.
C'est tellement gay, elle saura à quel point elle a été voulue, désirée, et à quel point on était fous de joie de son arrivée. Donc c'est comme ça que la grande aventure a commencé, et que là je suis tombée enceinte et que j'étais assez confiante sur le fait que c'était un petit bébé qui allait s'accrocher.
À ce moment-là, tu es relativement sereine pour cette grossesse.
Oui, bizarrement, là, je le sens bien. Je suis assez sereine. Pourtant, je suis aussi à peu près à 7-8 semaines. Et donc, ça pourrait être le moment où tout part en cacahuète. Mais je le sens, j'y crois. Et d'ailleurs, même si ma gynéco nous déconseille de partir au Mexique, parce qu'on avait un grand voyage de prévu dans tout le Yucatan, Là, je lui dis, bah, en fait, non, moi, je le sens, on va y aller, je vais être prudente, je vais faire attention à ce que je mange, à ce que je bois, mais on y va, quoi. Et donc, on est parti faire ce voyage qui était incroyable. Bon, j'ai eu des énormes nausées. J'ai des photos de moi, vraiment, où j'ai les larmes aux yeux, où je suis verte, littéralement, où c'était vraiment dur. Et où moi, qui déteste l'eau pétillante, glacée, qui ne boit que de l'eau plate tempérée, là, je ne buvais que de l'eau pétillante, glacée, avec full citron vert. C'était le seul truc qui passait pour faire passer mes nausées. Donc les filles, si vous avez tout essayé, tentez ça, ça peut marcher. Mais oui, c'était vraiment un super beau voyage. Et en fait, voilà, je couvais ce petit bébé. J'ai des premières photos du coup là-bas où on voit encore rien de mon ventre, mais moi je sais qu'elle est déjà là avec nous.
T'avais déjà eu la première écho.
Juste avant de partir, j'ai fait vraiment la première mini écho avec ma gynéco, mais où on n'entendait même pas encore le cœur. On savait encore rien. Donc par contre, 2 jours après notre tour, on avait pas encore la grosse écho, mais la première écho où on pouvait entendre le cœur. Et finalement, c'est la première fois que j'ai entendu le cœur de mon bébé. Tu vois, les fois précédentes, c'était à chaque fois trop tôt. Mais donc là, c'était vraiment elle est vraiment là. Et
là, vous réalisez, quoi.
Là, on réalise, ouais. Bon, moi, j'avais déjà réalisé avant, mais là, on est vraiment en mode, OK, on peut y croire.
Et comment s'est passé, du coup, ce premier trimestre de grossesse?
Alors, le premier trimestre, ce que j'en retiens, c'est que j'ai été quand même pas mal malade. J'avais quand même des bonnes nausées. Et en plus, je m'étais quand même chopé une bactérie, en fait, lors de mon voyage au Mexique. Et donc, du coup, voilà, j'étais quand même très barbouillée. Ce qui m'a sauvée, c'est le bouillon de poule. Et ça m'a vraiment aidée à me retaper. Et donc, voilà, premier trimestre, je retiens que j'étais quand même pas mal nauséeuse, un peu fatiguée, patraque. Deuxième trimestre, ce deuxième trimestre, il a commencé de façon très très dure, puisque en fait, le premier trimestre était déjà dur, hein, mais il était déjà dur parce que ma maman était en train de se battre en pleine récidive de son cancer. Donc ma maman avait déjà eu un premier cancer du sein, et elle a fait 5 ans d'hormonothérapie qui nous a permis de gagner du temps, et puis là, elle avait une récidive de son cancer du sein, mais avec des métastases au foie et aux os. Et donc, on a appris ça, en fait, déjà avant...
Avant que tu sois enceinte,
Avant que je sois enceinte, elle était déjà en plein combat. Donc, je l'avais dit à personne à part mon homme avant qu'on parte au Mexique, parce que je voulais pas lui faire une déception de plus avec tout ce qu'elle vivait déjà.
Et elle avait été au courant de tes précédentes fausses couches?
Elle avait été au courant de mes précédentes fausses couches. Et donc, au retour du Mexique, là, par contre... et ça aussi, c'est un moment que j'ai filmé qui était très, très beau. J'ai pu lui annoncer que j'étais enceinte. Donc au retour du Mexique, j'ai pu lui annoncer que j'étais enceinte. Elle était évidemment folle de joie. C'était génial déjà de pouvoir lui annoncer ça. Et puis après, ben en fait, son état s'est quand même assez vite dégradé. Et donc, c'est courant le 4e mois de ma grossesse que j'ai perdu ma maman.
Est-ce que tu partageais beaucoup justement ta grossesse avec ta maman? C'était important pour toi
Oui, j'avais vraiment une relation fusionnelle avec ma maman. On s'appelait tous les jours. Je suis fille unique, je ne suis plus en contact avec mon papa depuis des années. Donc en fait, j'avais vraiment que ma maman. Et vraiment, on s'appelait beaucoup. Et ça faisait des années que je rêvais d'être enceinte. Et ça faisait des années qu'elle rêvait d'être grand-mère. Donc vraiment, c'était une joie immense qu'on avait très envie de partager ensemble. Et donc oui, je l'appelais tous les jours pour lui donner de mes nouvelles et prendre des siennes, évidemment. On s'appelait en FaceTime, en vidéo, parfois plusieurs fois par jour. Donc... C'était super chouette, quoi. Je me rappelle d'un moment où le week-end où je lui ai annoncé que j'étais enceinte, je suis restée dormir chez elle, mon homme n'était pas là. Et on s'est couché dans le lit toutes les deux, tu vois, le matin au réveil. J'étais dans la petite chambre d'amis et on a commencé à imaginer toute la chambre qu'elle voudrait créer pour Lily Joy chez elle. Et donc c'était un super chouette moment.
Est-ce que c'était soudain son décès, ou alors vous y prépariez, vous essayez de profiter un maximum toutes les deux?
Moi, à partir du moment où j'ai su qu'elle était en récidive, j'ai vraiment profité de chaque minute. Mais au début de sa récidive, c'était le Covid, hein, donc ça a été quand même très, très, tu vois, compliqué. On était encore dans cette période où, en même temps, je voulais être tout le temps près d'elle, et en même temps, j'avais hyper peur de la contaminer, j'avais envie de la mettre sous cloche, donc c'était une période très, très difficile, très ambivalente. Mais non, les médecins nous ont jamais vraiment préparés en disant on est dans les derniers mois de vie. Non, jusqu'au dernier moment, c'était on se bat, on y croit, on va encore tester ci, on va encore tester ça. ça a été quand même assez rapide et j'étais pas vraiment préparée.
Et comment t'as vécu du coup justement cette ambivalence ? Parce que à la fois tu te réjouissais, j'imagine, et en même temps t'étais en pleine tristesse, quoi.
Ben oui, oui, c'est vraiment ça. En fait, ça a été très, très ambivalent, comme tu le dis. Il y avait des moments où en fait, je pense que cette grossesse m'a quand même un peu sauvée. Lily Joy m'a en tout cas vraiment portée. Tu vois, le fait de porter la vie, ça m'a obligée de ne pas sombrer, de m'accrocher pour elle. Je pense que mon deuil aurait été encore plus dur et encore plus violent si je n'avais pas été enceinte et si je ne m'étais pas sentie cette force de vie de dire « Ok, là, en fait, je dois tenir debout pour elle. » Mais oui, il y avait des moments où forcément, je m'effondrais, je pleurais énormément. Et dans ces moments-là, j'avais vraiment à cœur directement de beaucoup, beaucoup communiquer avec mon bébé. Donc je mettais tout le temps les mains sur mon ventre, je la caressais et je lui expliquais en fait, je lui expliquais ce qui se passait. Donc j'ai énormément parlé pendant toute ma grossesse et je lui ai vraiment parlé de chaque moment. Même déjà avant le décès de ma maman, je lui disais, tu sais, parfois tu sens peut-être que maman est un peu stressée, mais voilà ce qui se passe. Et je lui disais, j'espère que tu vas pouvoir connaître Mamie Moon, etc. Elle est comme ci, comme ça. Puis voilà, oui, au moment du décès, dans les moments vraiment très difficiles, et puis j'avais très peur de lui faire du mal, ou j'avais peur de la perdre, ou tu vois, j'étais encore tôt quand même dans ma grossesse. Donc j'essayais vraiment de la protéger du mieux que je pouvais, lui expliquer, lui dire que j'étais pas triste à cause d'elle, et qu'elle, elle devait juste bien grandir, prendre soin d'elle, que je l'aimais de tout mon cœur, que j'avais trop hâte de la rencontrer, mais qu'elle devait rester au chaud jusqu'au bout, tu vois.
Ouais.
Donc voilà, et en fait aussi, j'étais en pleine saison des mariages, et donc en fait, 2 jours après le décès de ma maman, j'avais un mariage.
T'as continué ?
J'ai continué, parce que c'est ce que ma maman m'a demandé de faire. Les dernières choses que ma maman m'a dit sur son lit de mort, c'est je suis fière de toi, je t'aime, prends soin de Lily et garde la tête haute et continue de bosser, quoi, tu vois.
Mm-hmm.
Donc voilà, je savais que c'est ce qu'elle voulait, donc je me suis accrochée à ça aussi. J'aurais été ravie de pouvoir prendre le temps de faire mon deuil, mais tu vois, dans le milieu du mariage, c'est pas comme si tu pouvais dire aux gens écoutez, on fait ça dans quelques mois, tu vois.
Mm-hmm,
eux, c'est un des plus beaux jours de leur vie aussi. Je suis très très engagée auprès des couples que j'accompagne et je voulais pas les planter. Mais oui, ça a été quand même très intense et pas évident, tu vois, de tenir ce rythme. J'avais vraiment l'impression que je mettais vraiment mon armure en mode ok, let's go. Et en même temps, le soir, ben voilà, je retirais mon armure et je laissais...
Et tu te lâchais à ce moment-là. Ouais. T'avais déjà le projet avec ton chéri de faire des préparations à la naissance pour Lily. Comment tu voyais ça ?
C'était une certitude pour moi dès le début que j'avais envie d'une grossesse la plus présente possible. Je m'étais dit que ce serait peut-être mon unique grossesse, donc je voulais la vivre, mais à 2000%. Et très vite, j'ai été assez certaine que je voulais une naissance physiologique, idéalement sans péridurale, la plus naturelle possible. Donc assez vite, même si j'adore ma gynéco, assez vite, je me suis tournée vers un accompagnement avec des sages-femmes qui donnaient la possibilité de pouvoir accoucher à domicile. C'était mon projet de base. Et donc, je me suis préparée en ce sens, quoi. Donc, j'ai fait un accompagnement avec préparation à la douleur, avec vraiment compréhension du fonctionnement physiologique de l'accouchement, les différentes étapes. J'ai lu plein de bouquins. Je voulais vraiment être préparée. Je voulais comprendre aussi ce que chaque décision avait comme conséquence. Je pense qu'il y a pas mal de futures mamans, tu vois, qui se laissent un peu guider, tu vois, par la voie classique, gynéco, vitamines de grossesse de base, accouchement à l'hôpital, péridurale parce que ça va faire trop mal, mais qui prennent pas le temps, peut-être, parce qu'elles en ont pas l'envie ou le besoin, mais de se renseigner réellement sur, OK, comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne comme ça, qu'est-ce que telle action va avoir comme conséquence. Et moi, j'étais hyper intéressée par tout ça, donc j'ai dévoré plein de livres, plein de podcasts sur le sujet.
Ouais, toi, tu voulais être vraiment maître de ton accouchement et de ta grossesse, quoi.
Ouais, c'est vraiment le bon terme. Je voulais vraiment être maître de ma grossesse, de mon accouchement, et pas écouter aveuglément ce qu'on allait me dire, mais comprendre et prendre mes décisions en fonction de quoi. Lily Joy était en siège pendant quasi toute ma grossesse, à part au tout début, mais à partir de la grosse deuxième écho, elle était en siège.
Et malgré tout, ça t'avait pas refroidi sur ton envie d'accoucher physio, puisque en siège, ça peut être plus compliqué, en tout cas. C'est faisable, mais ça peut être plus compliqué.
Alors clairement, ça me faisait un peu peur, le fait qu'elle soit en siège, mais c'est pour ça que j'avais choisi comme plan backup si elle restait en siège, Erasme, parce qu'ils ont justement la clinique du siège, et donc ils sont spécialisés dans En tout cas, ils sont outillés, ils ont l'habitude des naissances en siège, physiologiques quand même, quoi. Et si elle restait en siège, je pouvais pas accoucher au cocon et je pouvais pas accoucher chez moi. Donc moi, mon plan de base, c'était accoucher chez moi. Et finalement, on n'a pas gardé cette option-là parce que comme elle était en siège et que j'ai tout essayé pour la retourner, mais quand je te dis tout, j'ai fait l'aptonomie, j'ai fait les trucs où tu marches à quatre pattes en glissant sur le sol et où après tu laisses ton ventre du coup pendant le vide et puis après tu te mets la tête à l'envers, couché sur une planche à repasser qui est du coup en équilibre sur ton canapé pendant toute la soirée avec mon mec à côté de mon petit orteil qui faisait brûler du, je crois que ça s'appelle du moxa, c'est un truc d'acupuncture. J'ai été faire des séances d'acupuncture, j'ai été faire des séances d'hypnose, j'ai été faire de l'ostéopathie pour vérifier mon patient, j'ai tout fait.
Ouais.
Elle voulait pas se retourner. Et donc moi j'étais en mode bon, et en fait étant donné que j'ai quand même vraiment confiance en ma gynéco et que je m'entends très bien avec elle, elle m'a dit que j'avais la place encore pour tenter une version. Et j'avais lu un peu des trucs, pareil j'avais regardé une vidéo d'une version sur internet pour me préparer et tout. Certains disaient que ça faisait très mal, d'autres disaient que ça pouvait être un peu traumatisant pour l'enfant, mais t'avais un peu de tout. Et moi, je sentais en fait que j'avais besoin d'aller au bout, de tester ça. Et donc, j'avais dit à ma gynéco, je veux qu'on le tente, mais on force pas. Tu fais un, deux petits push max, mais tu la retournes pas de force. Tu lui donnes une impulsion, si elle se retourne, génial. Si elle se retourne pas, on force pas.
Et du coup, ouais, ça consiste en quoi alors exactement
La version, donc en fait, tu vas à l'hôpital et on te met un Baxter avec, je ne connais plus le nom du produit, mais en fait, c'est un produit qui va vraiment empêcher les contractions. C'est vraiment un décontractant musculaire. Et la spécificité de ce médicament, c'est que il donne un peu de tachycardie, donc t'as très chaud et t'as le cœur qui bat très vite. Donc, mais voilà, à partir du moment où tu y es préparé, pour moi c'était ok. Ça se fait donc à l'hôpital. En général, ça se fait avec une voire deux gynécos ou une gynéco et une sage-femme. Enfin voilà, ça dépend un peu. Et t'en as une des deux qui monitore le cœur du bébé. Et l'autre, en fait, moi c'est ma gynéco qui a vraiment mis la main, une main un peu au niveau de la tête de Lily, une main un peu au niveau de ses fesses, quoi, tu vois. Donc elle regarde sur l'écho en même temps, hein, donc ouais. Tu vois, il y en a pour vraiment bien voir l'image. Et alors c'est vraiment donné, moi c'était vraiment un petit push. En fait moi j'ai absolument pas eu mal, j'ai vraiment pas senti qu'on essayait de retourner mon bébé ni rien du tout. J'ai juste senti un oup, tu vois, en un coup, mais...
Parce que ça a marché directement.
Alors premier petit push, elle a pas bougé, elle m'a dit... Je tente une deuxième fois, elle me dit je pense que j'étais pas vraiment au bon endroit. Deuxième petit push, whoop, elle s'est retournée direct. Mais elle a fait une mini décélération cardiaque. Donc là, il y a eu pendant quelques secondes un espèce de moment de flottement, un peu de stress, où elle m'a dit ok, mets-toi sur le côté gauche, non, mets-toi sur le côté droit. Et puis moi je restais calme, tu vois, j'écoutais juste ce qu'on me disait, j'essayais pas de comprendre ni quoi que ce soit, mais je voyais la tête de ma gynéco qui était quand même un peu sur le qui-vive, et puis ouf, tout est rentré dans l'ordre. Mais par contre, du coup, ce petit moment de flottement, ça a un petit peu fait stresser mon amoureux, et donc il m'a dit, écoute, en fait, l'accouchement à la maison, là, en fait, ça me stresse quand même, il me dit, j'ai vraiment envie d'être là pour toi. Mais il me dit s'il y a quoi que ce soit, il me dit je me sens pas à l'aise, ça me rassurerait qu'on soit à l'hôpital. Donc il me dit qu'est-ce que tu penses du compromis de faire ça au cocon. Et donc j'ai dit ok, parce que c'était important pour moi qu'on soit tous les deux tous les deux sereins et tous les deux bien présents pour cet accouchement. Donc les sages-femmes d'Amala qui m'avaient accompagnée pouvaient aussi accoucher au cocon. Donc du coup on est parti sur cette option-là.
Donc là tu te dis ok, c'est que mon projet de naissance peut ressembler à ce que j'espérais finalement. Exactement. Mis à part le fait que ce sera pas à domicile, mais donc... Comment du coup tu te prépares à cet accouchement physio ?
Je suis trop contente, je suis juste un peu stressée la semaine qui suit la version parce que j'ai quand même quelques contractions, du coup je me dis oulala, elle va arriver plus tôt que prévu, j'étais pas du tout prête. Et aussi oulala, j'avais trop peur qu'elle se re-retourne. J'avais trop peur qu'elle se remette en siège. Ma grande panique. Dès que je la sentais un peu trop bouger, j'étais en mode « Oh là là, elle va pas me faire ça, elle va pas se remettre dans l'autre sens. » Ça, c'est, je me rappelle que j'étais un peu en mode giga panique par rapport à ça, mais non, elle restait bien en place. Je me rappelle que dans les dernières semaines, je lisais juste des petites... C'est pas des fiches, mais j'avais un bouquin un peu bande dessinée comme ça qu'une amie m'avait donné, je me rappelle plus le nom, qui rappelait un peu tous les grands thèmes importants, tu vois, à retenir.
Est-ce que tu peux recontextualiser ce fameux jour où, voilà, Lily allait arriver?
Alors, je vais commencer au 23 décembre, parce que ouais. 23 décembre, c'est le dernier petit resto en amoureux, juste à deux, qu'on s'est fait. Et je me rappelle que ce soir-là, j'avais l'impression que Lily donnait des petits coups de poing dans mon vagin. On était dans un petit resto italien en train de manger une pizza et en un coup je dis à Fred, oui, elle était censée arriver normalement le 1er janvier. Et j'écoute, je sais pas ce qui se passe là, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle me donne des petits coups de poing là en bas, c'est trop bizarre. Et en fait, j'ai su après en discutant avec ma sage-femme qu'en fait, c'est un peu la sensation que ça fait quand le bébé commence à positionner sa tête vraiment un peu plus dans l'entrée. Puis le 24, donc je recevais tout le monde à la maison. Ouais. Mon beau-père, donc l'amoureux de ma maman, mes demi-sœurs, mon amoureux. J'avais fait un super beau sapin de Noël. Il faut savoir que Noël, c'était vraiment la fête préférée de ma maman et qu'elle mettait toujours full déco, qu'elle adorait ça et qu'elle m'avait dit qu'elle avait vraiment envie que je maintienne les traditions. Donc j'avais vraiment décoré à fond la maison et tout. Et le 24 au soir, quand ma famille arrive, on est en train de prendre l'apéro, là j'ai déjà un premier truc où je dis, bon, on m'en voulait pas trop, mais je vais la jouer cool pendant l'apéro parce que je sens quand même que ça travaille quand même pas mal là en bas. On va quand même éviter que j'accouche ce soir, hein, elle est quand même censée rester encore une semaine au chaud. Donc, pensez pas que je fais la fainéante, mais je vais un peu rester cool, quoi. Ouais. Du coup, j'étais en petite robe à paillettes avec un énorme bidou, un peu cool sur mon canap. Donc là, on est à l'apéro, voilà. Moi, je bois pas, tu vois, on commence à manger, etc. Sauf que dans ma famille, on fait toujours des apéros à hyper rallonge parce qu'on offre les cadeaux pendant l'apéro, donc ça dure. Donc bref, on passe à table, méga tard. Minuit, donc là, tout le monde se souhaite un joyeux Noël, on serre dans les bras, etc. Je vais essayer de pas pleurer, mais mon beau-père me murmure à ce moment-là à l'oreille... elle aurait tellement été heureuse d'être là, je suis sûre qu'elle est là avec nous, etc. Donc il me parle de ma maman et je ressens quelque part sa présence, ou je ressens vraiment quelque chose qui me touche profondément, où je sais effectivement à quel point ce Noël aurait été spécial pour elle avec moi enceinte et voilà. Et puis on passe à table et minuit et demi, je suis là à table en petite robe à paillettes avec ma famille et en un coup, je perds les os. Et donc là, je dis à ma famille, je dis... parce que j'avais une de mes deux demi-sœurs qui avait déjà eu deux grossesses et donc ouais. Je lui dis quand on perd les os, en fait, c'est comme si on se faisait pipi dessus. Et donc là, il y a un blanc dans tout le truc.
Parce que attends, tu perds les os, mais personne s'en rend compte.
Mais non, parce que je suis assise à table. Okay. Je suis assise à table, on est tous là en train de manger et là, moi, je sens une espèce de flaque. Et donc là, je dis... donc tu vois, je pose mes couverts et je dis donc quand on perd les os, c'est un peu comme si on se faisait pipi dessus. Silence général, les gens commencent un peu à se marrer. Et Mimi me dit quoi ? Je dis écoute, soit je viens de me pisser dessus, soit je viens de perdre les os, tu vois. Et donc du coup là, je me lève avec ma petite robe à paillettes et je vais jusqu'aux toilettes. Et puis mes deux demi-sœurs me suivent et je dis obviously, je me suis pas fait pipi dessus. Donc je dis là, je pense qu'en fait, voilà, je viens de perdre les os. C'est pas non plus l'énorme flaque, mais c'est quand même, en fait, c'est poche fissurée, quoi, tu vois.
Ok, ouais.
Et donc là, je dis ok. Donc là, j'appelle ma sage-femme, qui est aussi en plein réveillon de Noël, bah forcément. Ouais. Donc je l'appelle, je lui dis Anna, je viens de perdre les os. Elle me dit ok. Et puis elle me dit bon, bah écoute, tu te presses pas, tu rassembles tes affaires, etc. Mais elle me dit quand il y a une poche fissurée, c'est quand même toujours mieux d'aller voir à l'hôpital. Donc va faire un petit check à l'hôpital, comme ça on voit un peu, enfin on vérifie où ça en est. Et après tu me tiens au courant et on voit de là. Donc cool, je finis, enfin cool, en fait ma valise était pas prête, je pensais que j'avais encore une semaine quoi. Et nous voilà partis à l'hôpital. Pendant ce temps là ma famille a un peu rangé et tout ça pour pas que ce soit l'enfer. Je leur ai dit bah finissez le dessert ici, si ça tombe on est de retour dans une heure, j'en sais rien, on vous tient au courant. Bon bah on arrive le 25 décembre, enfin très très tôt, la nuit du 24 au 25, à l'accueil, effectif réduit hein, ce jour là clairement, ouais. Donc le cocon, il y a personne, il est pas ouvert, donc c'est ma sage-femme qui a devoir l'ouvrir. Mais donc moi, en gros, là, quand j'arrive, je tombe juste sur une gynéco, ça se passe pas hyper bien, parce que je tombe sur une gynéco très protocolaire, qui m'ausculte, mais qui me dit, bon, ben voilà, maintenant, on va vous installer dans une chambre d'hôpital. Et je dis, non, pas du tout, si tout va bien, moi, je rentre chez moi, je veux faire mon travail chez moi, à mon rythme. De toute façon, moi, j'accouche au cocon, etc. Ah oui, mais attention, si vous n'accouchez pas dans les X heures, on va quand même être obligé de faire le petit push, je sais plus comment ça s'appelle.
Pour déclencher,
etc. J'étais là, mais attends, on me parle pas ça, alors que je viens juste de fissurer, quoi. J'étais ouais. Vraiment pas contente, j'étais vraiment campée sur mes positions, en mode... vous me retenez pas ici, je rentre chez moi. Il y a rien à faire une fois que tu rentres dans l'autoroute hospitalière, tu vois, où eux ils ont leur petit protocole et leurs trucs qui suivent comme ça. Bah en fait tu peux très vite sortir de ta bulle, de ton truc, être frustré, donc finalement ralentir ton travail. Donc je dis non, s'il n'y a pas de d'obligation parce que problème de santé ou quoi que ce soit, je rentre chez moi, quoi. Donc je rentre chez moi, là mon homme était en mode thank god parce qu'il était crevé, donc il me dit est-ce que j'ai le droit de faire une petite sieste? Et donc je lui dis oui t'inquiète, tu peux aller dormir et moi je vais gérer. Mais en fait dès qu'on est rentré à la maison et que j'ai été de nouveau dans mon cocon, là j'ai senti les contractions qui ont commencé à s'intensifier. Je me suis couchée, je me suis dit ok, tout ce que je prends comme repos va m'aider à tenir, c'est un marathon, c'est pas un sprint quoi. Donc j'étais en mode ok, je me couche dans mon lit, mais j'avais mon téléphone à côté de moi et j'ai commencé à monitorer mes contractions. Et donc au début j'avais des contractions toutes les 7 minutes et puis pendant je pense une heure et demie toutes les 7 minutes et puis après assez vite toutes les 5 minutes, ok. Et donc là je me forçais vraiment à fermer les yeux, à juste me reposer dans l'entrefaite. Et puis en un coup c'est passé à toutes les presque 3 minutes et là j'ai dit ok, je vais aller prendre un bain.
En fait vous étiez mis quoi comme deadline avant de courir à l'hôpital quoi?
Que je le sente.
Ok, d'accord. Parce que 3 minutes, c'est quand même bien rapproché, quoi.
Ouais, mais que je le sente, que je sente que c'était le bon moment.
Ok,
et donc, quand c'était, allez, un peu plus de 3 minutes, j'ai pris un bain. Et là, quand j'ai pris mon bain, c'est devenu vraiment plus intense et plus régulier. Je savais que le bain, c'était un peu le quitte ou double. Mm-hmm. C'est que si ça s'appelle, c'est que c'est un faux travail. Si finalement, ça s'intensifie, c'est qu'en fait, t'es dans le bon travail. Là, en fait, dès que j'ai mis mes fesses dans le bain et dans l'eau chaude, j'étais en mode, ok. Donc là, j'ai direct, je suis ressortie du bain, j'ai été chercher mon homme et j'ai dit... J'espère que t'as bien siesté parce que là maintenant on est go, on y est, j'ai réenfilé mon truc et là on est parti. Bon là je dois dire que les contractions dans la voiture c'est quand même beaucoup moins confortable. Hein. Et puis en fait ce que je faisais pour gérer mes contractions c'est que chaque fois que j'avais une contraction forte qui venait, tu vois je mettais mes mains contre le mur comme ça et je faisais des 8 avec mon bassin. Vraiment parce que j'avais aussi lu que le mouvement ça pouvait vraiment aider ton bébé à descendre et tout ça. Et puis on est arrivé à l'hôpital et là je me rappelle que je disais, là je commençais vraiment à avoir du mal où je faisais des 8 toutes les 5 minutes. Je devais donner ma carte d'identité mais j'étais en mode oula ok ça devient quand même assez rapproché. Et puis en fait quand je suis arrivée, bah, de nouveau au cocon toujours pas ouvert. Donc là j'avais rappelé ma sage-femme en mode... Ok, là maintenant, j'y vais, quoi.
Ouais.
Donc elle m'avait dit, ok, ben je prends une douche, parce que c'était le milieu de la nuit, tu vois. Elle m'a dit, je prends une douche et je te rejoins plus vite. Et donc quand on est arrivé, on nous a mis dans une salle de monito, où on a juste monitoré mon bébé, mais on m'a dit, est-ce que vous voulez qu'on vous ausculte ou est-ce que vous voulez attendre votre sage-femme? Et moi, je voulais attendre ma sage-femme, parce que je savais aussi que... En fait, c'est le genre de truc qui peut ralentir ton travail parce que ça te coupe un peu, c'est des mains inconnues et tout. Donc moi, j'étais en mode, non, tant que je gère, c'est pas nécessaire. Là, je me rappelle avoir dit à mon homme, alors que jusqu'à présent, je gérais hyper bien. Là, je lui ai dit, ok, si quand Anna m'arrive, elle m'annonce que je suis à 2 cm, je crois que je vais pas pouvoir tenir sur la péri parce que là, je commence vraiment à avoir mal. Mais je dis, je crois que je suis quand même bien plus loin que ça, quoi. Juste après, j'ai eu je sais plus si on appelle ça syndrome ou quoi, mais j'ai eu mon corps qui éjectait tout ce qu'il pouvait. Donc j'ai dû aller à la toilette et j'ai vomi. J'ai vomi, mais de douleur, mais en fait, moi qui déteste vomir, là j'étais presque contente parce que j'avais lu que ça voulait dire qu'en fait t'étais vraiment proche et que c'est ton corps qui se libérait de tout ce qu'il n'avait plus besoin pour pouvoir après juste se concentrer sur la poussée, etc. Et alors je savais aussi que, et j'avais prévenu mon mec là-dessus, qu'il allait avoir à un moment ou un autre la fameuse phase de désespérance. Et là j'ai dit à mon mec, je te préviens, quand je rentre dans cette phase, tu es le warrior, quoi.
Ouais.
C'est toi qui dois tenir la barre, c'est toi qui dois me coacher, c'est toi qui dois pas me laisser, tomber si je suis arrivée jusque-là. Bon, go for it, quoi.
Ouais.
Tu vois, tu m'aides, mais on y va, quoi. Et puis, donc, peu de temps après ça, ma sage-femme arrive enfin. Et là, elle me dit, alors, t'es à combien? Je dis, ben, je sais pas, personne m'a encore ausculté, je t'attendais. Donc, et là, je lui dis, ouais. Anna, si tu me dis que je suis à 2 cm, je suis pas sûre de pouvoir tenir, en tout cas, tu vas devoir me coacher de ouf. Mais je dis, je crois que je suis un peu plus loin. Elle me dit, bah vas-y, allonge-toi, je vais te checker. Et puis là, je n'oublierai jamais son immense sourire de fierté, où elle me regarde, elle me dit, t'es à 9 cm.
Donc t'accouches, quoi.
Donc elle me dit, donc ça c'est la bonne nouvelle, mais elle me dit, la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai pas le temps de te monter au cocon. Donc là, on est dans une petite salle. Elle me dit, le temps que qu'on monte, que j'ouvre le truc, que je t'installe, etc. Elle me dit, je suis hyper désolée, mais c'est trop
tard. Ça va être là, quoi.
Et donc là, mon mec était hyper mal parce qu'il dit, non, mais c'est pour ça qu'on n'accouchait pas à la maison. Je sais que c'était méga important pour elle d'accoucher au cocon et tout, c'était le compromis. Est-ce que vraiment, il n'y a pas moyen? Et puis là, je lui dis, non, mais là, c'est pas grave, mon loup. Là, c'est rien, elle arrive, je veux juste une salle qui est ok et let's go, quoi.
Ouais.
Et donc là, elle me dit, écoute, on va quand même aller dans la salle d'accouchement, du coup, au bout du couloir.
Ouais.
Putain, mais la traversée de ce couloir épique. Je m'arrêtais tous les mètres, mètres 50 pour hurler, faire des 8 avec mon bassin. À un moment, je
t'arrivais dit... quand même encore à faire les 8.
Je faisais encore les 8, mais à un moment, j'ai dit à Anna, putain, mais je vais accoucher là, au milieu du couloir. Hein. On arrive quand même là-bas. Et par contre, là, bon, voilà, ça faisait quand même un petit temps. Je commençais, parce que j'étais restée beaucoup, beaucoup debout pour travailler cette verticalité. Et là, elle me dit, ok, on est dans la dernière ligne droite, mais je commençais à avoir un peu les jambes qui tremblent, etc. Donc elle me dit, il faut qu'on trouve une position pour la dernière ligne droite dans laquelle t'es à l'aise. Donc j'essaye d'abord de me mettre à quatre pattes sur le lit, j'avais les jambes qui tremblaient, ça n'allait pas. J'essaye de me mettre debout, tu vois, le torse couché sur le lit, ça n'allait pas, je me sentais pas bien. Et puis elle m'a proposé la chaise percée, et ça franchement, génial quoi. Génial parce que t'es quand même encore en mode vertical, ça c'était parfait pour moi, et donc moi je me suis assise là-dessus. Mon homme s'est mis sur un gros ballon derrière moi et ma sage-femme à genoux devant moi. Et là, on a vraiment travaillé comme une team, c'était incroyable. À chaque contraction, je plongeais dans les bras de ma sage-femme et elle me serrait fort et elle me murmurait des trucs vraiment pour me motiver en mode « tu peux le faire, vas-y, respire bien ». Enfin voilà, plein de super trucs. Et à chaque vague qui sortirait, donc à chaque moment off, je me laissais vraiment aller mais comme un pantin, tu vois, dans les bras de mon homme. Mm-hmm. Et c'est vraiment lui qui me tenait pour vraiment me reposer, quoi. Je pensais vraiment à ces vagues et je me disais, ok, il faut que je laisse mon corps récupérer, même si c'est qu'une minute. Et donc voilà, on a fait ça comme ça. Il y a eu à peu près une heure de poussée. Et Lily est arrivée à 11h11. C'était ouf, vraiment. Et en fait, clairement, au moment où Lily a approché du cercle de feu, en fait, j'étais pas du tout prête pour la douleur. Et donc, en fait, j'ai retenu. Et donc, en fait, j'ai dit à ma sage-femme, j'ai dit, je viens de la remonter. Et effectivement, elle m'a dit, oui, tu l'as remontée de 2 cm. Ah, elle me dit, du coup, ça veut dire que t'as vraiment une totale conscience de ton corps. C'est qu'effectivement, tu sais très bien où elle est. Mais donc, elle m'a dit, ouais, maintenant, on y est. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est le cercle de feu. C'est le moment... dur, mais tu peux le faire. Et donc la prochaine contraction, il faut que tu y ailles, quoi. Et la fois d'après, je me suis vraiment concentrée au niveau de mon mental. Et donc la fois d'après, j'ai vraiment poussé. Et donc là, sa tête s'est bloquée dans le cercle de feu. Et la fois d'après, la tête est sortie. Et puis elle m'a dit encore 2-3 poussées. Et elle est là. Et alors là, je me rappelle très bien lui avoir dit non, maintenant. Et là, pff, j'ai sorti tout le corps d'un coup. Et je l'ai attrapée.
Un truc de dingue. Tu as réussi à la prendre.
Ouais, je l'ai prise.
Waouh.
Ouais, donc j'ai poussé tout d'un coup et j'ai été la chercher. Et je l'ai mise sur moi. Par contre, ne me demande plus comment je suis remontée de cette chaise percée, du coup quasi accroupie, sur mon lit avec Lily dans mes bras, quoi. Et après, du coup, je me suis couchée donc sur le lit avec Lily sur moi, et là je planais, mais fois mille, quoi. Je la regardais avec des étoiles dans les yeux, oh là là, mais je suis tombée, mais inconditionnellement en amour pour ce petit bébé, mais à la seconde. Je crois que je l'étais déjà quand elle était dans mon ventre, mais là vraiment, c'était... c'était magique. En fait, moi, j'aurais pu repartir 2 heures plus tard chez moi.
Ouais.
Vraiment. Et être dans notre petit cocon. Mais en fait, on nous a quand même un peu poussé à l'hôpital à rester au moins une nuit en disant, la première nuit, pour les questions pour l'allaitement, quand même pour vérifier un peu les tests par rapport à la jaunisse. Mm-hmm. Si là, il dit, c'est quand même toujours bien de rester 24 heures. J'ai dit, bon, d'accord. Et donc, j'y ai passé que 24 heures, quoi.
Ok,
j'ai accouché à 11h11 le 25. Le 26 à midi, on sortait, quoi.
Ah ouais?
Oui.
Donc, tu savais que t'allais allaiter. T'étais hyper renseignée sur le sujet.
Ça s'est fait assez naturellement. Donc, je l'ai posée sur ma poitrine et j'avais vraiment envie de la laisser trouver elle-même. Donc, j'ai vraiment pas poussé. Voilà, je l'ai laissée et petit à petit, quand j'ai vu qu'elle ouvrait la bouche tout près de mon téton, je l'ai un tout petit peu aidée. Et donc, elle a commencé comme ça toute seule. C'est vrai qu'honnêtement, c'était quand même chouette de rester une nuit à la maternité parce que du coup, effectivement, pour les positions un peu d'allaitement, c'était quand même chouette d'avoir deux, trois conseils, tu vois, sur place.
Comment vous êtes décidée sur le prénom, Lily Jo, du coup?
Ah, alors, on savait qu'on voulait un prénom quand même assez original. Mm-hmm. Ça, c'est venu assez tôt. En fait, notre prénom chouchou de base, je sais pas si je peux le dire parce que si un jour j'ai un deuxième et que c'est une petite fille, peut-être qu'on l'appellera comme ça. On avait un autre prénom chouchou de base que mon homme avait déjà entendu via un de ses clients, mais on voulait pas copier le prénom, tu vois. On se disait, peut-être qu'en fait on voudrait un truc un peu plus personnalisé, mais donc c'était un prénom composé et même les prénoms seuls nous plaisaient aussi. Et puis en prénom seul, Lily était là. Joy était dans les prénoms seuls qu'on aimait aussi. Et en fait, ma maman s'appelait Magali. Et donc, quand j'ai perdu ma maman, c'est devenu une évidence pour moi que je voulais qu'il y ait un clin d'œil de ma maman dans le prénom de Lily. Mais je voulais pas l'appeler comme ma maman, ça aurait été trop lourd. Donc je me suis dit, ah ben Magali, Lily. Et en fait, je me suis dit, ben ce bébé, ça va être mon soleil, ça va être ma joie, ça va être ce qui va me porter. Et donc en fait, en un coup, c'est devenu une évidence, Lily Joy, quoi. Et j'ai dit à mon homme, en fait, c'est ça. Et c'est trop gay parce que, déjà, on adore son prénom, vraiment, mm-hmm. on le trouve canon. Quand on voit, comme on voyage pas mal, ben en fait, c'est un prénom qui se dit bien dans toutes les langues, tu vois. Et c'est hyper gay parce que vraiment, chaque fois qu'on me demande comment s'appelle ma fille et que je dis le prénom, les gens sourient. Vraiment, tu vois, enfin, les gens ont vraiment un grand sourire en mode « Ah, mais c'est trop chouette !» Tu vois, ouais. On a toujours une réaction positive face au prénom de Lily Joy.
Et donc, ce retour à la maison.
Écoute, retour à la maison, hyper bien, je plane, je suis juste tellement contente d'avoir mon bébé, je la regarde en permanence, je ne la quitte pas des yeux, elle est en peau à peau, direct, en fait, moi j'ai vraiment vécu le mois d'or, donc c'était une certitude pour moi que je voulais que tout le mois... Enfin, on dit qu'idéalement, le premier mois, il est bon de rester au maximum allongé, de manger un maximum de trucs chauds, d'être au maximum en peau à peau avec son bébé. Voilà, moi, j'avais vraiment envie de le vivre comme ça. Ça tombait bien, c'était l'hiver, t'as juste envie de coucouner. Mon homme m'avait fait un petit feu ouvert, j'étais là. On a un canapé avec grande mezzanine, donc j'étais vraiment couchée dans le canapé avec tous mes petits coussins. Mon bébé en boule sur moi, une petite couverture, et j'étais juste au paradis.
Est-ce que tu penses que t'as fait un petit baby blues ?
Je crois pas. J'ai eu des gros moments de down par rapport au décès de ma maman. Et donc, quand Lily est arrivée, j'étais dans la joie, etc. Mais il y avait plein de moments où, quand j'étais un peu fatiguée, quand j'étais down, j'avais trop envie d'appeler ma maman. Et c'était plus le manque de ma maman qui était difficile à gérer. Je pense que allez, au bout de 3-4 jours après mon accouchement, j'ai eu une journée vraiment où j'arrêtais pas de pleurer. Et je pense que la sage-femme m'avait dit « Ok, mais aujourd'hui, c'est un peu le jour du petit baby blues, quoi. » Mais ça a duré une journée, en fait, juste d'épuisement, parce que je dormais quasi pas et que j'étais un peu KO. Mais sinon, non, je garde plutôt un souvenir plutôt très positif de tout ça.
T'as fait un allaitement long, c'était prévu ?
Alors, c'était une certitude pour moi que je voulais allaiter, mais au départ, je savais pas comment ça irait. Donc, je m'étais dit « Ok, minimum 3 mois ». C'est ce que je m'étais fixé, je m'étais dit par la porte ou par la fenêtre, je veux vraiment allaiter au moins 3 mois, ça c'était sûr pour moi. Et puis honnêtement, les 6 premières semaines, ça a été quand même un peu galère. Je me rappelle le pic de croissance de 6 semaines, je me rappelle très bien être enfermée dans la toilette en train de pleurer comme une dingue, les seins en feu, épuisée, j'avais mal, elle voulait téter tout le temps, j'en pouvais plus. Et là, c'était dur, quoi. C'était dur, mais je voulais pas arrêter pour autant. Mais je me rappelle avoir vraiment eu ce moment de... Ok, on m'avait pas prévenu que ça pouvait être dur. Et encore, j'ai pas eu des énormes crevasses. Enfin, j'ai pas eu des vrais gros problèmes. J'ai eu une montée de lait où vraiment je ressemblais à Pamela Anderson, quoi. C'était impressionnant. Alors que je fais un petit 85B, donc tu vois, la marge était vraiment impressionnante. J'ai eu un petit engorgement, donc j'ai eu des petits soucis. Mais pareil, j'avais lu... plein de trucs sur l'allaitement, donc je savais qu'il y avait toujours des solutions possibles, quoi, et que je voulais m'accrocher. Donc j'ai quand même dû aller voir une conseillère en lactation, parce que j'avais l'impression que Lily prenait pas bien, que j'avais un peu mal et tout. Mais voilà, des petits détails, des petits ajustements, et puis en fait, une fois le pic de croissance de 6 semaines passé, c'est comme si du jour au lendemain, pouf, c'est devenu hyper facile. Vraiment, c'est ce que j'en garde comme souvenir, c'est qu'en un coup, il y a eu un déclic, et c'est devenu facile. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est juste trop pratique, trop génial, tu vois, j'ai tout ce qu'il lui faut à disposition, à bonne température, tout le temps. Le truc s'adapte à ses besoins. Si elle est malade, il y a des anticorps. Ça la réconforte en plus. C'est juste magique. Donc là, je me suis dit assez vite, bon, en fait, je vais quand même aller jusqu'à 6 mois, quoi. À la fin de mon postpartum, donc quand elle avait 3 mois, on est parti un mois à Bali parce qu'on voulait finir mon postpartum vraiment par un moment magique à nous trois là-bas. Et c'est de toute façon un endroit où on va chaque année, donc c'est un endroit vraiment important pour nous. Mais au retour de Bali, Lily était censée commencer la crèche. Donc là, du coup, au niveau d'allaitement, ça complique toujours. Tu vois, une fois que tu rentres à la crèche, tu peux tirer ton lait, mais souvent, tu dois commencer au moins un allaitement mixte, etc. Et c'était pas quelque chose que je voulais. Et en fait, moi, quand je l'ai déposé à la crèche, alors que j'avais déjà payé la compte et tout ça, très vite, je me suis dit non, en fait, ça n'ira pas. C'était impossible pour moi. Elle était trop petite. J'étais méga triste. Ça m'a pas convenu. Donc finalement, je me suis dit, je veux continuer mon allaitement long. Et en plus, ça ne me convient pas. Donc, je la mets pas à la crèche. Je trouverai une nounou. Et donc du coup, ça m'a permis de pouvoir aussi continuer mon allaitement. Et donc assez vite, je me suis dit après, bon ben 6 mois. Et puis une fois que j'ai atteint les 6 mois, je me suis dit, bon, je peux aller jusqu'au 1 an. Et puis en fait, une fois qu'elle a eu 1 an, j'ai dit, bon en fait, je vais aller au moins jusqu'à ses 2 ans. Et là, elle a presque 2 ans, elle a 22 mois. Et en fait, je me dis, bah en fait, j'irai bien jusqu'au sevrage naturel. Maintenant, j'espère que ce sera autour de ces 2 ans et demi. Mais pour l'instant, je profite encore de ces moments et de pouvoir lui donner tout ce que je peux.
Et quel genre de mère es-tu? Et est-ce que tu pensais que tu deviendrais ce genre de maman?
Je suis une maman à la fois très, très maternante. Full câlin. Full portage, full cododo, full bisou. Je lui dis tous les jours que je l'aime, je lui dis tous les jours qu'elle est merveilleuse. Enfin, voilà, je suis vraiment très, très, très câline avec elle. Et à la fois, j'ai tout de suite été très attirée par la pédagogie Montessori. Donc, très vite, j'ai eu envie de lui donner les bons outils pour développer son indépendance. Et donc, ça, je trouve que c'est un assez bon mix parce qu'à la fois, je pense que j'ai bien rempli et je continue de remplir du mieux que je peux son petit réservoir affectif, tu vois. Et à la fois, j'essaye de lui donner le plus confiance en elle possible en lui disant « tu peux le faire ». Nous, ça a été full motricité libre, il n'y avait pas de parc, on a des escaliers, il n'y avait pas vraiment de grosses barrières, ni rien du tout. On mettait juste une barrière pour les escaliers qui descendent, plutôt quand elle a commencé à marcher avec son trotteur, mais on les a déjà retirés. On lui a très vite fait confiance et on la laissait vraiment explorer beaucoup en termes de motricité. On a fait la DME aussi avec elle, donc à partir de ses 5 mois, donc c'est-à-dire je l'ai pratiquement jamais nourrie à la cuillère. Ça a tout de suite été la découverte des morceaux, des textures. Du coup, je sais que j'avais des copines qui me disaient « Oh, mais les risques d'étouffement, etc. » Mais je pense être une maman assez sereine, où je lui fais confiance, en fait. Et je me dis « Ça va aller, elle sait faire, quoi. »
Quelle est la période que t'as préférée ?
Écoute, c'est marrant parce que je lui écris une lettre tous les mois. Où je lui raconte son évolution et où je lui raconte un peu notre relation, etc. C'est une lettre que je veux lui remettre plus tard. Et donc, tous les mois, je lui écris une lettre depuis sa naissance. Et en fait, c'est trop marrant, mais parce que j'ai l'impression que tous les mois, je dis « c'est mon âge préféré ». Et vraiment, en fait, j'ai adoré la voir vraiment petit nourrisson, tout le temps en boule sur moi. On a fait des cododo jusqu'à ses 1 an. Son sommeil n'a pas été facile jusqu'à ses 1 an, donc voilà, mais je crois que le cerveau d'une maman fait très bien le tri et c'est déjà presque oublié. Mais j'ai adoré toute cette période où en fait je pouvais la mettre en portage et l'emmener partout. Vers ses 1 an, elle a fait ses premiers pas, j'ai trouvé ça magique, tu vois. Et puis là, maintenant, on est dans cette période où c'est l'explosion du langage, elle est hyper drôle, elle fait plein de blagues, elle me fait vraiment marrer, quoi. Et donc je me dis, en fait, j'adore aussi cette période. Honnêtement, pour l'instant, moi, je kiffe chaque mois qui passe, quoi.
Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux parents, aux mamans, des choses que toi, t'aurais aimé qu'on te dise avant de devenir maman?
Alors, il y a un conseil qu'une copine m'avait donné et qui me reste en tête quand il y a des petits moments plus difficiles, c'est tout ce qui est pris, mais jamais rien n'est acquis. Donc typiquement, quand de temps en temps, il y avait une très bonne nuit, je m'en réjouissais, mais je me disais qu'en fait, toute la petite enfance, c'est une période où ça change beaucoup et ça va vite, en fait. Et donc, moi, j'essaye vraiment juste de profiter de chaque moment. Pareil, quand il y a des nuits un peu difficiles, là, elle a été malade une semaine, de nouveau, on a très mal dormi. Et en fait, quand je la câline, tu vois, et que je la berce, et qu'en fait, je sens qu'elle a besoin de moi, qu'elle a envie d'être près de moi, je me dis, mais en fait, cette période-là, ça va tellement me manquer quand ce sera une ado qui m'enverra péter, quoi, tu vois. Et donc, clair. Du coup, j'essaye vraiment, moi, de me dire, ça passe tellement vite, tu vois, les moments qu'on a vraiment à passer avec nos enfants, que j'ai juste envie de chérir chaque moment.
Et si tu devais décrire ta fille à ta maman aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais?
Je lui dirais qu'elle est encore mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer.
Merci beaucoup, Élodie, pour ton temps. Merci de nous avoir confié, de m'avoir confié ton histoire et ce récit hyper émouvant.
Merci, Anissa.
Merci beaucoup pour votre écoute. Alors que vous soyez coparent, tata, grand-mère, papy ou proche d'un futur parent, n'hésitez pas à partager, liker les épisodes et à en parler autour de vous pour soutenir ce podcast. Vous pouvez aussi mettre un cœur ou 5 étoiles sur l'appli d'écoute de votre choix. Parce qu'on ne naît pas parent mais qu'on le devient, parce qu'on ne savait pas qu'il fallait un village entier pour élever un enfant, parce qu'on s'est senti trop souvent dépourvu face aux pleurs de bébé, parce qu'on ne savait pas que pleurer sans raison était tout à fait normal après un tel chamboulement, mais aussi parce qu'on ne savait pas qu'il était possible de générer autant d'amour pour de si petits êtres, bref, parce qu'il y a mille et une raisons d'écouter Rita, le podcast belge qui compte bien vous aider à mieux vivre ce grand tourbillon de la vie.